Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qui est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Oui, cher monsieur, dans les aventures qui va suivre, vous êtes déjà.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
rue. Les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est dans le mètre.
Là, on le mettre.
On ne connaît pas tout de gauche, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'y parle pas, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis, tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
La révolution, par exemple, on ne sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu salis le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des...
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues femmes
oranges. Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est dans le mètre.
Là, dans le mètre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis, un petit peu de bon. Et puis, un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social, et la chanson, c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs, et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de poste. Tu dis tant que je connais pas. C'est quand même curieux, alors. Tant que j'ai dit, jamais, je tombé en panne de poste.
Merde, on en rend, merde.
Avec un lait du poil, avec un lait du poil.
Aujourd'hui, mercredi 4 novembre 2020, c'est la Saint-Reconfinement. Saint-Reconfinement est le Saint-Repatron de la re-réclusion à domicile. Et cette fois, face au re-virus, on est re-prêt. Comme l'a bien redit re-Macron, nous re-sommes en re-guerre contre ce re-virus. D'où la canonisation de Saint-Reconfinement. Re encore une fois, re tout le monde est réinvité à re-rester chez soi, à re-applaudir les blouses blanches survivantes à re 20h, à ressortir de façon redérogatoire, sinon tu te rechoppes 135€ de ramende par la repolice de Redarmanin. Darmanin tout court. La dernière fois c'était Castaner. Mais la clé d'étranglement reste la même. Et comme en mars, à part quelques toutes petites exceptions, tout sera refermé et on sera reconfiné. On sera reconfiné et tout sera refermé. Sauf les crèches, les écoles, les collèges et lycées, parce que cette fois il faudra bien que les parents aillent bosser, au lieu de se la couler douce à la maison, à jouer à la Switch ou à se perfectionner dans la recette de la saucisse briochée, puisqu'il reste encore 25 kg de farine qui traînent dans la cuisine depuis le premier confinement. Et puis on va pas encore payer ces feignants de profs à rien foutre, tu croyais quoi? Les profs, c'est des héros juste quand ils se font décapiter. Après, on peut les gazer, comme pour les infirmières. Sinon, à part ça, tout sera refermé et on sera reconfiné. On sera reconfiné et tout sera refermé. Sauf les services publics cette fois. Mais bon, on les connaît, les fonctionnaires et privilégiés assimilés. Fermé ou non, personne verra la différence alors. Et sauf les EHPAD et les maisons de retraite aussi, où les visites resteront autorisées. Ce qui, en passant, permettra une bonne fois pour toutes de se débarrasser des retraités, du problème des retraites. Les parcs aussi resteront accessibles, tout comme les jardins, les forêts, les plages. et aussi les fleuristes pour la Toussaint ainsi que les cimetières, pour voir plus haut la remarque sur le problème des retraites. À part ça, tout sera fermé et on sera reconfiné. On sera reconfiné et tout sera refermé, à part les commerces alimentaires, les commerces de gros, les stations-service, les garages, les laveries, les blanchisseries, les marchands de journaux, les buralistes, les opticiens, les magasins d'informatique et d'équipement, de téléphonie, de télécommunications, de location de voitures, de bricolage, de jardinage et les marchés, couverts ou non. À part ça, on sera reconfiné et on se demande bien ce qui reste à fermer. Ce qui reste à fermer, c'est tout ce qui est non essentiel, c'est-à-dire les lieux de culture type bistrot, bar, café, buvette. Et à part ça, on sera reconfiné et on se demande bien quand est-ce que les Castex, Macron, Darmanin, Valls, Blanquer, Bachelot, Pompili, Le Maire, Borne, tout non essentiel qu'ils sont, on se demande bien quand ils vont la fermer. Aujourd'hui, mercredi 4 novembre, le soleil s'est levé. Ça ressemblait à Haïti recouvert d'un voile ou d'une bâche. Il s'est couché comme un coup de grisou dans la soute et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche d'or du campus, sur le campuslib.com et le DAB+. Ce soir, dans l'heure de le mettre, on vous emmène à Onin, devant l'usine Toyota, où il y a eu un rassemblement jeudi dernier, le 29 octobre, donc, rassemblement de soutien de salariés de Toyota, salariés qui sont également les délégués CGT, convoqués par la direction pour un entretien préalable au licenciement. Et nos micros y étaient. Et en fin d'émission, on vous emmènera à Martigues, cette fois, pour les assises de la riposte générale pour la transformation de la société. C'est l'heure de le mettre.
Quand vous décidez par le confinement, et je ne le conteste pas, qu'on ne doit pas aller pisser à plus d'un kilomètre de chez nous, vous êtes capable de faire ça. Vous êtes capable de faire que les gens restent chez eux. Vous êtes capable aujourd'hui de leur dire qu'à partir de 9h, ils ne doivent pas mettre un pied sur le trottoir. Ça, vous êtes capable de le faire. Vous êtes des lions face aux citoyens, mais vous êtes des carpettes face à Amazon et compagnie. Je pense que vous êtes des carpettes. Je pense que vous vous couchez avant même d'avoir lutté. Je pense que vous êtes des paillassons, que vous vous faites marcher dessus et qu'on dirait que ça vous fait plaisir. Mais si, je le pense. Je pense que c'est un choix. C'est, vous faites le choix de vous plier devant Bridgestone et Amazon. Vous êtes des lions face aux citoyens, mais vous êtes des carpettes face à Amazon et compagnie.
T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romère, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Je me demande bien.
Oh mais, je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite.
T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner, mais pour se déconfiner, faut être immunisé. Pour être immunisé, faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, faut se déconfiner. C'est QFD. T'as voulu mettre un masque, et ben y'avait pas de masque. Mais je peux t'en faire un à base de sopalin. J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe, mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus. J'avais pas marqué l'heure sur mon attestation, j'avais une mode de beurre, n'a coûté tant de pognon. Inflation.
Oh mais Macron a dit, chauffe personne, il faut rester chez vous. À devenir fou, on doit rester unis pour sauver la nation et l'hôpital public et la pigmentation de la barbe d'Edouard Philippe.
Tu veux voir le JT? Waouh, la chouette idée! Je te laisse 10 minutes max pour finir l'Xanax. Le pays est en guerre, on ferme toutes les frontières, déficit, récession, des chômeurs par million. On est en plein cauchemar, mais place du Panthéon, on a vu des canards, si c'est-il pas mignon. Et en plus, c'est bon, proti. Alors à ce qui paraît, faut tenir jusqu'au 11 mai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ce temps offert? On a déjà tué le chat, ligoté les enfants, dénoncé le voisin qui va voir ses parents dans un EHPAD pourri du côté de Charenton, vivement que ce soit fini, qu'on se confine en prison pour de bon. Oh mais Macron a dit hey, l'ancien monde c'est fini, débloquons des crédits pour les plus démunis. En septembre prochain, s'il continue comme ça, on le verra avec un joint à la fête de l'humain. À 20h, il faut se mettre à gueuler à la fenêtre pour soutenir les soignants en galère d'équipement. C'est les mêmes l'an passé qui se faisaient tabasser par la marée chaussée pour avoir du budget. Maintenant c'est des héros, moi je leur tire mon chapeau. Si avec tout ça ils tiennent, pas un peu schizophrènes. Pourvu qu'ils tiennent, qu'on s'en souvienne.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Donc la situation, elle est celle-ci. Jean-Christophe Bailleul, hein, qui a 20 ans d'ancienneté, qui est là, bah, vient à côté de moi, hein, qui est élu au CSE, membre de la CSSCT et syndiqué depuis 15 ans à la CGT, est convoqué tout à l'heure à 14h30, hein, pour une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement. Les motifs ne sont pas précisés. Edith Véchope, que beaucoup ont connu durant la grève de 2009, qui est aussi élu au CSE, qui est délégué syndical CGT, était convoqué initialement demain. Alors elle n'est pas parmi nous aujourd'hui parce que la camarade elle a le Covid, elle en est malade, non seulement du Covid, mais de pas être avec nous aujourd'hui. Et là, la direction lui a envoyé un courrier pour dire « Vu votre état de santé, madame, nous reportons l'entretien au 5 novembre. » Alors là aussi, les motifs ne sont pas précisés. Pour rappel, il y avait eu une tentative grave d'essayer de licencier Edith en 2014. Et c'est grâce à la mobilisation, hein, au mouvement d'opinion qu'il y avait eu pour dénoncer les menaces de licenciement contre Edith, que la direction, finalement, en était revenue à 5 jours de mise à pied. Suite à cette procédure et à ces 5 jours de mise à pied, il y a eu une enquête de l'inspection du travail, hein, qui expliquait dans un courrier que finalement tous les éléments que la direction mettait en avant étaient des arguments, des éléments flous, sans preuve directe. Et ça a été confirmé par les prud'hommes de Valenciennes, où finalement ces 5 jours de mise à pied ont été annulés. Là, la direction, elle remet le couvert aujourd'hui, en convoquant Jean-Christophe aujourd'hui et Edith demain. S'y convoque, en menaçant de licenciement, deux militants qui dénoncent les injustices, les abus, les mauvaises conditions de travail, les bas salaires, qui dénoncent la situation sanitaire dans l'entreprise. C'est pas un hasard. C'est parce que Toyota, comme l'ensemble des patrons, il se prépare à des attaques d'envergure contre l'ensemble du monde du travail. Alors ça, beaucoup de travailleurs le comprennent aujourd'hui. Mais c'est une chose de comprendre, c'est autre chose de trouver la voie pour se mobiliser aujourd'hui dans ce contexte difficile. Alors nous, on garde l'espoir. Parce que là, aujourd'hui, la direction de Toyota nous a convoqués dans une réunion CSSCT, hein, sécurité, conditions de travail, à propos du Covid. Et elle a annoncé 5 minutes en moins de temps de travail par jour. Mais elle a aussi annoncé que les samedis et les dimanches supplémentaires annoncés étaient maintenus, que l'overtime n'était pas supprimé. Alors ils ont beau supprimer 5 minutes par jour, mais s'ils rajoutent de l'overtime, ça allonge la journée de travail. Ils gardent les pauses telles qu'elles sont. Et tout leur discours, ça a été pour nous faire comprendre, pour faire comprendre aux délégués présents lors de cette réunion, qu'ils allaient augmenter le flicage dans l'entreprise. Alors ça, vous comprenez, ça durera qu'un temps. Oui, ils se préparent à des attaques. Alors là, durant le confinement, est-ce qu'il y a des bagnoles qui vont se vendre? J'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on a le sentiment profond que depuis des mois, hein, la direction de l'usine, d'ailleurs comme celle de PSA ou de Renault, d'ailleurs PSA où il y a eu un CSE tout à l'heure, j'ai vu Franck Théry, pourra peut-être raconter tout à l'heure, hein, un CSE où, suite au confinement, la direction de Cévennes Nord hein, au programme des samedis supplémentaires. Voilà ce que font les patrons aujourd'hui. Alors cette situation, elle durera qu'un temps, et il y aura bien un moment, hein, où le monde du travail, où les travailleurs y trouveront la voie justement pour se regrouper, pour s'unir, pour devenir une force, afin de défendre leurs intérêts, afin de défendre leur emploi, afin de défendre leur salaire, afin de défendre leurs conditions de travail.
Bravo, camarades, bravo. Bravo.
Parce que les milliards accumulés ces dernières années, ils se sont pas envolés. Pour Toyota, c'est 150 milliards accumulés en 10 ans. L'argent, il existe pour maintenir tous les emplois, pour augmenter les salaires. Donc, voilà la situation. Je vous remercie tous d'être là. Moi, je vous demande de... Hein, tous ceux, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, tous ceux qui s'en sentent et puis qui comptent rester un peu, bah déjà l'entretien de Jean-Christophe c'est à 14h30, ben de discuter avec les ouvriers qui vont arriver, avec ceux qui vont sortir, et puis de faire signer, d'expliquer la situation, hein, de leur annoncer même, hein, parce que ce que je vous ai annoncé, hein, sur les intentions de la direction dès lundi, hein, c'est-à-dire augmenter le flicage dans les ateliers, ça les travailleurs, ils n'ont pas encore l'information, ça vient de sortir. Alors vous pourrez leur dire, oui le gouvernement, ben, il fait comme votre direction d'entreprise, il cherche à culpabiliser les ouvriers, à culpabiliser la population, à dire que c'est eux, hein, les responsables, hein, de l'explosion des contaminations dans le pays, alors que l'essentiel des contaminations au Covid, ça se fait sur les lieux de travail, ça se fait dans les écoles. Mais ici, à Toyota, comme à Cévennes Nord, ou comme dans plein d'autres entreprises, les patrons, ils s'en lavent les mains. Ils disent c'est dans le milieu familial que vous contractez le virus. Parce que pour eux, ils sont pas à un mensonge près. L'important, c'est les profits. Les profits qui tirent de l'exploitation de notre travail.
C'est pas loin de Toulouse que tout a commencé. Il y avait une usine et les gars y travaillaient. Mais en écoutant la bourse, les patrons ont décidé que l'usine était moche, qu'il fallait tout brader. C'est pas qu'elle marchait pas, c'est que tous les rentiers y trouvaient que ça faisait pas assez. Ils ont loué des vigiles et des chiens qui aboyaient. Ils ont pris des ficelles, ils ont tout barricadé. Tout autour de l'usine, on ne pouvait plus passer. Ils voulaient prendre les machines, ah quelle drôle d'idée. Les Molex, ils ont vu ça, ils les ont empêchés. En leur collant une grève, les patrons l'ont pas volé.
La grève a commencé. La grève a commencé. La grève a commencé. Et la guerre va commencer.
Allez. En écoutant que leur courage, les patrons ont appelé le cabinet et l'entourage de monsieur le préfet. Lui c'est l'homme qui vient du ciel, il va nous sauver. Lui c'est l'homme providentiel, je m'en vais l'appeler. Le préfet nous a dit, nous allons discuter. Mais les vigiles étaient là et on n'a pas pu rentrer. Le brave homme, c'est étrange, n'est pas venu nous chercher. C'est quand même bizarre, il a dû oublier. Monsieur le préfet, au ministre de l'outillage a téléphoné. Lui c'est l'homme qui vient du ciel, il va nous sauver. Lui c'est l'homme providentiel, je m'en vais l'appeler. On a bien vu le ministre, il nous a écoutés. Tout en remuant la tête, il avait l'air embêté. Oh mes pauvres amis, je vous comprends, vous savez, mais je ne peux rien y faire, car c'est la fatalité.
La 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 la, et la guerre va continuer. La 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 la, et la guerre va continuer. La 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 la, et la guerre va continuer. La 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 la, et la guerre va continuer.
Allez, continue, hop hop hop.
Et la grève va continuer, ah la 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 la, et la grève va continuer, ah la 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 la, et la grève va continuer, ah la 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 la, et la grève va continuer.
N'écoutant que son courage, le ministre a décidé d'aller voir le président et de lui raconter.
Lui c'est l'homme qui vient du ciel, il va nous sauver. Lui c'est l'homme présidentiel, je m'en vais l'appeler.
Le président nous a dit, ah ça ne peut plus durer. Vous allez voir ce qu'on va voir, nous on va moraliser. Devant les télévisions, il nous a déclaré, il faut faire une commission avec monsieur le préfet.
La 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 la, et la grève va continuer. La 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 la, et la grève va continuer. La 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 la, et la grève va continuer. La 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 la, et la grève va continuer. La 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 la, et la grève va continuer.
Les molettes, ils ont vu ça et ils ont pas lâché.
Les molettes, ils ont vu ça et ils ont pas lâché.
Ce que tu lâches au patron, ils te le rendront jamais.
Ce que tu lâches au patron.
Ouais, il faudra. Là, il faut profiter que ce qu'on fait là, ça, voilà, ça va faire discuter dans les ateliers. Hein. Et là, toutes les discussions qu'on aura, elles seront utiles. Hein. Alors, est-ce que ce sera utile dans une semaine ou dans un mois? Bah, sur les délais, on ignore tous. Hein. Mais en tout cas, il faut lutter contre l'idée que nous, les ouvriers, on est juste bon à s'en prendre plein la figure. Hein. Parce que là, quand même, nous, on fait tout tourner. Hein, et voilà, pour l'instant, les ouvriers, on a peur parce qu'il y a le chômage et tralala, etc. Mais si on trouve les moyens de faire de la cohésion, eh ben, on sera dans une meilleure situation. Hein. Et puis surtout, là, bien sûr, les attaques, elles sont injustes contre Edith et moi. Hein, y compris la procédure, elle est injuste. Hein. Le fait de convoquer quelqu'un sans lui dire qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher et tout, bah, c'est interdit d'organiser sa défense, etc. Mais voilà, il faut surtout expliquer que là, il faut qu'on utilise tout ce qu'on voit comme injustice au quotidien, là, il faut qu'on s'en serve pour qu'on s'organise et qu'on dise les choses et qu'on devienne plus fort. Hein. Que si on accepte d'être divisé, si on accepte les discours des chefs qui cherchent les coupables ou quoi, eh ben en réalité on se retrouve dans la situation où on se fait taper dessus, dessus, puis il n'y a pas de réponse. Hein. Voilà, alors ici il y a déjà eu des grèves en 2009 et en 2011, et là si vous parlez à des anciens, bah, eux ils ont vu le changement radical. Hein. Et puis d'ailleurs avant 2009, bah, tout le monde disait ouais, il n'y aura jamais de grève ici, parce que tu as vu maintenant, on n'est plus en 68 ou je sais pas quoi. Ah, et puis tout compte fait, quand il y a eu les grèves, elles sont produites, ça a changé. Alors ouais, sur les revendications principales, genre à l'époque c'était les inquiétudes, le chômage partiel et tout, mais en même temps ça changeait tout dans les ateliers, parce que voilà, les gars ils se faisaient confiance, quand il y avait les injustices, il y avait même pas, pendant des années, moi dans mon atelier, il n'y avait pas de convocation en disciplinaire, parce qu'en fait, eh ben, le simple fait qu'on était des dizaines de militants, qu'on avait fait l'expérience de la cohésion, eh ben, ça nous protégeait. Et voilà, là, il faut rappeler ces souvenirs-là aussi, parce que là, je vais redire ce qu'a dit Eric, mais là, avec la crise économique ou quoi, là, les patrons, quand, enfin les actionnaires, quand ils voudront sauver leurs profits, Eh ben, ça sera sur la peau des ouvriers. Hein. Et là, il n'y a personne parce qu'il n'y a personne qui va être épargné. Hein.
Bravo, épargné. Camarade.
Autre chose, vous avez peut-être pu voir hier des restaurateurs, des patrons de bistrot dénoncer le sort qui leur est fait. Bien sûr, hein, Macron, c'est le président des grands patrons. Et quand il le juge utile, hein, bah, il n'hésite pas, y compris à foutre dans la merde des petits cafetiers, des petits restaurateurs qui vont se retrouver dans des difficultés sans nom. Alors, il y a l'interdiction d'ouvrir les petits restaurants, les petits bistrots à l'extérieur. Et là, Toyota, ils viennent de nous annoncer que dans les entreprises, les grandes chaînes de restauration style Sodexo, qui annoncent 2000 licenciements pour maintenir leurs profits, auront le droit de servir des repas dans les entreprises. Voilà toute la politique du gouvernement au service du grand capital. Alors, aujourd'hui, avant de passer la parole à Ludovic Bouvier, il y a Philippe Martinez qui a failli venir, mais qui est pris ailleurs. Et il nous a envoyé un courrier que je vais lire. Alors, cher Eric, cher et cher camarade, je tiens, à l'occasion de votre rassemblement de ce jeudi 29 octobre concernant les menaces de sanctions disciplinaires à l'encontre d'Edith et de Jean-Christophe, élus CSE CGT de votre établissement, à vous apporter tout mon soutien et celui de la Confédération. Une fois de plus, la direction de Toyota, comme beaucoup d'autres en France, utilise les menaces et la répression vis-à-vis d'élus CGT pour tenter d'intimider l'ensemble du monde du travail. Dans une période où les problèmes sanitaires, économiques et sociaux se multiplient, la direction veut museler toute opposition ou proposition alternative à sa politique. Voilà la réalité de leur conception du dialogue social tant déclamée de la part du gouvernement et du MEDEF. Edith et Jean-Christophe ne font qu'assumer les engagements pour lesquels ils ont été élus par les salariés, c'est-à-dire à leur côté les défendre face à une direction de Toyota qui n'a comme seule préoccupation de satisfaire les appétits des actionnaires. Nous voulons réaffirmer ensemble que nous choisissons toujours le camp des travailleurs et des travailleuses de surcroît dans cette période de pandémie. Oui, nous voulons privilégier la santé à l'économie et au profit comme nous le déclarons haut et fort depuis début mars. Nous refusons la culpabilisation des salariés et des citoyens en général que tente d'instaurer le gouvernement avec des mesures inefficaces et contradictoires tout en ménageant de façon indécente les responsabilités du capital. Pourtant, comme ailleurs, les travailleuses et les travailleurs de votre usine souffrent de la précarité avec la multiplication des CDD, les mauvaises conditions de travail et leurs conséquences sur la santé, du sous-effectif et des bas salaires. Personne ne pourra nous faire taire sur cette réalité et ceux qui luttent, comme Edith et Jean-Christophe, méritent le respect et tout notre soutien. Quand une ou un militant de la CGT est attaqué, c'est toute la CGT qui est attaquée, alors on ne lâche rien. Recevez, chers et chers camarades, une fois de plus, tout mon soutien et mon salut fraternel. Philippe Martinez. Ludovic.
Alors camarades, tout d'abord, au nom de la région métallurgie, mais aussi de la fédération qui ne pouvait pas se déplacer aujourd'hui, la fédération de la métallurgie, et aussi de l'UD, puisque beaucoup de camarades sont partis sur Martigues, puisque vous savez qu'il y avait une réunion là importante sur Martigues, je voudrais apporter mon soutien au nom de l'UD, de la fédération, et aussi de la région métallurgie. Et beaucoup de métallos aujourd'hui, de camarades de la métallurgie, se sont déplacés. Évidemment que le patronat aujourd'hui, et notamment le patronat de la métallurgie, est à l'attaque partout. Partout, la répression patronale joue son jeu dans les usines. Et les deux camarades aujourd'hui qui sont menacés lourdement, puisque c'est bien le licenciement dont on les menace, sont malheureusement pas les seuls. Et on ne peut évidemment pas laisser faire. Et dès ce soir, vous le savez, le gouvernement a annoncé une nouvelle fois un confinement. Et il faut quand même qu'on le dise, et que la direction de Toyota et que le patron le sache, c'est pas ça qui va nous arrêter pour défendre nos camarades. Parce que ça suffit. Aujourd'hui, s'ils s'attaquent aux syndicats CGT et à ses militants, c'est bien parce que, et évidemment les camarades l'ont dit avant moi, parce qu'on défend les intérêts des travailleurs. Et rien d'autre. Et donc on ne laissera pas faire. Tout à l'heure, notre camarade va aller en entretien disciplinaire, et on peut s'attendre à ce que ce soit encore un bateau qui soit monté à l'encontre de notre camarade, et aussi notre camarade Edith qui passera un peu plus tard le 5 novembre. Et ça devient inacceptable et intolérable. Et donc, à chaque fois qu'on le peut, et à chaque fois qu'il faudra nous défendre, il faudra nous mobiliser et continuer à nous mobiliser. Parce que quand ils attaquent nos camarades comme ça, comme ils le font ici, évidemment que ça présage d'autres attaques dans beaucoup d'autres entreprises. Et si on laisse faire, c'est évidemment tous nos camarades qui vont passer à la trappe. Dans les années 80, le patronat avait fait une grande razzia, c'est des milliers de licenciements sur les délégués CGT qui ont eu lieu. Et ils ne vont pas s'arrêter, pour les plus anciens, ils s'en souviennent. Et ils sont prêts à recommencer. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est nous museler et nous faire taire. Et moi, je suis vraiment très agréablement content que les camarades se soient déplacés dans la situation et dans les situations difficiles, parce que évidemment qu'avec l'annonce qui a été faite hier, beaucoup de camarades étaient pris, mais ils ont donné la priorité aujourd'hui à ce rassemblement, et c'était très important. Et je pense que, y compris pendant le confinement, on n'a pas fini, puisque les usines vont continuer de tourner et ils ne vont pas s'arrêter là. Et donc il va falloir aussi qu'on prenne des mesures, et à un moment ou à un autre, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il va falloir aussi qu'on brave aussi les interdits, parce que ça ne peut pas durer comme ça, ou sinon ils vont tous nous liquider un par un.
Je me suis levé un matin, sombre jour de l'existence. J'ai levé la voix et le poing, quand la règle était le silence. J'en ai vu monter dans des trains, partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin, je suis entré en résistance. Une voix pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entre potence et corps de cou. Je suis revenu de si loin, je rends grâce à mon étoile. La mort m'a oublié en chemin, à Dora et à Bourneval. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin. 93 ans, voici ma mémoire. Prenez-en le plus grand soin. L'indignation, obstinément, dans un monde au garde à vous. Soyez de ceux qui marchent contre le vent, mes amis. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Pensez-vous donc qu'aujourd'hui, les motifs de soulèvement nous manquent, quand nos propres vies sont à crédit, sous la dictature des banques. L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent au président, qui ordonne aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment toute cette nourriture invendue. Jetez-la donc à la poubelle. Et au-dessus du tas d'ordures, versez-moi 10 litres d'eau de Javel. Voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié. Jusqu'à ce que frappe à notre porte ce maudit seuil de pauvreté. Les droits de l'homme mis en jachère, vendus en portions individuelles. Quand la crise alimentaire s'éternise devant l'éternel. Mais miracle, quand des milliards sont trouvés dans la seconde, pour sauver le roi de l'art et tous les banquiers de ce monde. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous.
certes moins visibles qu'au sombre temps de l'esclavage. Mais nos esprits sont pris pour cible, qu'ont-ils fait de notre héritage? Compétition à outrance, amnésie généralisée, produit de consommation de masse pour une jeunesse anesthésiée. Il est grand temps, mes amis, de rallumer enfin les étoiles qui ont guidé toute sa vie ce vieux monsieur qui vous parle. Oui, j'ai été cet Arménien, je suis toujours ce juif allemand, je suis le peuple palestinien, la justice est mon seul camp. Soyez citoyens sans frontières de ces peuples qui se soulèvent, contaminez la terre entière de vos révoltes et de vos rêves. Indignez-vous, c'est votre droit, et en mémoire de tout cela qui meurt encore de ne pas l'avoir, ce droit est de fait un devoir. Indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, bondissant son étoile, entendez-vous. Indignez-vous. Indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, bondissant son étoile, entendez-vous.
Camarades, écoutez la radio attentivement, les lundis à 19h. On passe au rouge sur Radio Campus 106,6 afin d'éviter tout désagrément pour ta santé et celle de tes enfants.
Moi, je voudrais tout d'abord exprimer tout mon soutien, ma solidarité aux deux camarades de la CGT qui sont convoqués et puis surtout un bon rétablissement à Edith qui a attrapé ce foutu virus. Je voudrais quand même commencer par dire un petit mot suite à l'attentat qui s'est produit ce matin à Nice pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc il y a encore eu un drame à Nice dans une cathédrale où il y aurait 3 morts dont une femme égorgée. Et donc notre pays va encore vivre sous le coup de cette actualité dramatique. Une actualité qui est encore dure avec les annonces qui ont été faites hier par le président de la République. Qui a annoncé un semi-confinement, on va dire, un confinement qui est dur pour les petits commerçants, les artisans, un confinement qui va être dur pour ceux qui sont sans emploi et qui vont devoir rester enfermés chez eux, mais un confinement qui permet à ceux qui travaillent dans les usines de continuer d'y aller. Et quand j'entends vos témoignages, en plus dans des entreprises, on va vous demander de travailler plus. Alors que l'on sait qu'effectivement les clusters sont nombreux dans ces lieux de travail. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que ce confinement qui était proposé par le président de la République est un confinement qui est plutôt libéral, puisqu'il faut que les usines tournent, que les travailleurs soient présents, et pourtant le reste du pays, lui, ceux qui sont sans emploi, ceux qui aujourd'hui sombre dans la précarité, dans la pauvreté, eh bien, devraient rester chez eux. On vit donc une période qui est particulièrement difficile. J'étais hier dans le Rhône, et hier j'étais aux côtés des salariés de JTEC. Et les salariés de JTEC, c'est une entreprise de 1200 salariés où ils produisent des directions hydrauliques, et dont l'actionnaire, c'est le même actionnaire que Toyota. C'est la même boîte. Et j'étais aux côtés des copains de la CGT, parce qu'ils protestent contre un plan de suppression de 800 emplois. Et en même temps que l'entreprise JTEC dont Toyota est le principal actionnaire, en même temps que l'entreprise supprime 800 emplois, ces deux dernières années, ils ont investi 20 millions d'euros dans des chaînes de montage au Maroc pour produire la même chose que eux produisent dans le Rhône, dans cette ville d'Erini. Et donc, quand on replace tout ça dans ce contexte, le confinement, ce qui est demandé aux travailleurs de ce pays, et ce que font des grands groupes comme le groupe Toyota, oui, moi je dis qu'il faut que les salariés, leurs représentants, soient le plus unis possible pour faire front, pour s'opposer à ces choix qui sont faits et qui sont très durs pour notre peuple, très durs pour le monde du travail. On ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer en ce moment. Et on doit être le plus unis possible, le plus unis possible pour résister, pour empêcher la casse de notre outil industriel, la casse de nos emplois et cette hausse du chômage qui inéluctablement va nous frapper de plus en plus. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. On a un gouvernement qui, à chaque discours, va nous parler de souveraineté économique et de réindustrialisation. Mais dans la réalité des faits, dans la réalité, il n'y a jamais eu autant de suppression d'emplois et autant de délocalisation organisée et sans aucune justification liée avec cette pandémie. Ce sont des délocalisations qui sont uniquement organisées pour augmenter la valeur des actions des actionnaires, des multinationales, des fonds de pension. Et ce sont nous les salariés, qui à chaque fois sommes les variables d'ajustement, sommes ceux qui devons payer le prix de cette course à la rentabilité et de cette course au profit. Comment peut-on accepter ces logiques alors que nous sommes secoués par une pandémie particulièrement grave qui mérite justement que des positions, des décisions peut-être dures soient prises, telles qu'un confinement généralisé. Personnellement, je suis, moi, pour que l'on ait un confinement très, très strict, parce que ce virus est vraiment, vraiment tueur. Et on a aujourd'hui un gouvernement qui nous dit non, travaillez. Et on a des groupes qui préfèrent dire délocalisons et licencions. Alors oui, moi j'appelle à l'unité la plus forte, l'unité la plus solide du monde du travail, des syndicats, des travailleurs, pour que nous résistions face à cette casse de l'emploi, pour que nous conservions ici nos machines, nos outils industriels, nos savoir-faire, pour que nous reprenions le pouvoir sur l'argent, pour que nous reprenions le pouvoir sur le choix que nous voulons faire dans notre pays. Et ce que nous voulons faire dans notre pays, c'est vivre dignement avec un vrai travail et un vrai salaire. Et pour mener ce combat-là, vous pouvez compter sur moi, je serai toujours avec vous. Et c'est pour cette raison que j'ai fait le choix d'être avec vous ce midi ici, au lieu d'être à l'Assemblée nationale pour participer au vote sur le confinement. Je vous remercie.
Jean-Pierre Mercier. Bien, bonjour à tous. Au nom des camarades de lutte ouvrière, j'apporte le soutien à Edith et à Jean-Christophe dans leur menace de licenciement provoquée par la direction de Toyota. On ne connaît pas officiellement les motifs de ces convocations. Je dis les motifs officiels parce que nous, on sait tous quel est le motif pour lequel ils sont convoqués en vue d'un licenciement. Parce que ce sont des militants ouvriers. Et comme l'ont dit les camarades précédemment, c'est des militants qui défendent non seulement les intérêts des travailleurs, mais qui défendent une certaine philosophie, une certaine idée du syndicalisme, une certaine idée du combat social. L'idée que c'est l'ensemble des travailleurs qui doivent s'unir, qui doivent se mobiliser massivement, déterminés, pour défendre leurs intérêts, qui doivent prendre leur sort en main. C'est cette philosophie du syndicalisme, ils sont CGT, que les camarades y défendent, que nous défendons tous dans les entreprises dans lesquelles nous travaillons. Et par-delà cette philosophie, ce sont des camarades comme nous tous, Fabien vient de l'évoquer, l'actualité dramatique, ce sont des camarades, des militants qui défendent l'unité des travailleurs. Aujourd'hui, on vit des heures noires. Parce que dans ce pays, d'un côté ou de l'autre, que ce soit du côté de ceux qui perpétrent, de ceux qui font les attentats, ou que ce soit du côté de l'extrême droite, ou de la droite, et d'un certain nombre de politiciens, ils veulent tous qu'on se divise les uns les autres. Ils veulent tous qu'on se bouffe le nez. Ils veulent tous que, parce que, quelles que soient nos religions, nos philosophies, qu'on se fasse la guerre entre nous, au profit du patronat, au profit de ces milliardaires qui ramassent, malgré le Covid, qui ramassent des milliards et des milliards de profits et de dividendes. Ce qui est en train de se passer dans le pays aujourd'hui est quelque chose de très grave. Edith et Jean-Christophe, ce sont des militants comme nous tous qui avons conscience qu'il va falloir se battre, qu'il va falloir militer auprès de nos camarades de travail, qu'ils ne tombent pas dans le piège de la division qui est en train de se monter. Les uns et les autres à l'extérieur veulent creuser un fossé de sang entre les travailleurs au nom, soi-disant, des uns de la religion ou alors des autres des valeurs, soi-disant, de la France. C'est un danger mortel, c'est un poison mortel, la division. Alors on a du boulot autour de nous. On a à militer pour justement que les travailleurs ne tombent pas dans ce piège de la division. Parce que sinon, ça va devenir très très compliqué. Mais au-delà de tout ça, au-delà de toutes ces raisons, ce que la direction, quand la direction d'une entreprise, elle s'en prend à des militants ouvriers, ils veulent faire, je ne vais pas oser le parallèle parce que ça peut créer des problèmes, mais ils veulent faire des exemples. Tous ceux qui ne baissent pas les bras, tous ceux qui ne baissent pas la tête, voilà ce qui risque de leur arriver. Ils veulent tout d'abord, ces directions, essayer, tenter de démoraliser les militants, mais aussi de faire un exemple et de foutre la trouille aux travailleurs, de foutre la trouille aux salariés, de leur faire passer le message, comme certains le font à l'extérieur des usines. Si vous vous révoltez, voilà ce qui peut vous arriver. C'est moi ici le patron et c'est moi qui décide. Alors ce rassemblement, il est humble, mais il a le mérite d'exister. Et toute la bagarre, tout le militantisme que les camarades y développent à Toyota, mais dans toutes les entreprises dans lesquelles nous militons, il faut de l'or. Parce que sans ce militantisme, eh bien les idées du mouvement ouvrier, les idées du combat social, de la lutte de classe, elles ne seront pas représentées, elles ne seront pas défendues, et le patronat, il aura un boulevard devant lui. Alors par-delà toutes ces raisons, ce que le patronat, il a peur quand il s'attaque aux militants, il a peur, bien sûr, du militantisme individuel des camarades, ou du militantisme collectif d'un syndicat, mais par-dessus tout, il a peur de la réaction collective des travailleurs. Parce qu'il sait qu'en ce moment, ce qu'il demande, ce qu'il nous impose, c'est quelque chose de très dur. Oui, il y a la crise économique, par-dessus il y a le Covid. C'est des licenciements. Mais au-delà des licenciements dans les entreprises qui tournent, c'est, Eric il l'a dit, c'est des conditions de travail qui deviennent de plus en plus dures. C'est, on trime tous les jours, on est fliqué. C'est les blocages des salaires, c'est les droits collectifs qui sont aujourd'hui en train d'être détruits et qui, à un moment donné, ça, nos patrons, ils le savent, à un moment donné, ça va plus être supportable et qu'il va y avoir des réactions collectives. Ils veulent retarder le plus longtemps possible le moment où il y aura ces réactions collectives. Alors oui, les travailleurs ont besoin de militants ouvriers, ils n'ont pas besoin d'avocats, ils n'ont pas besoin d'assistants sociaux. Ils ont besoin de militants qui ont une conscience claire. Où est-ce que c'est notre intérêt de travailleurs? Quelle perspective on doit défendre dans les usines auprès de nos camarades de travail? C'est pour toutes ces raisons, c'est pour ces motifs-là que Edith et Jean-Christophe aujourd'hui sont menacés de licenciement. Et ça pend au-dessus des têtes de chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous des militants du mouvement ouvrier, nous sommes tous des militants des travailleurs. Alors, pas question de baisser la tête, pas question de baisser les bras, au contraire, plus la situation elle est grave, plus le danger de la division, le poison de la division, il est réel, il est présent, et bien plus on doit redoubler notre activité militante et défendre des idées qui soient utiles, vitales pour l'ensemble des travailleurs. Eh bien, on est tous convaincus qu'Edith et Jean-Christophe et tous les camarades de la CGT de Toyota, ils vont pas baisser les bras, ils vont se bagarrer le plus longtemps possible et jusqu'au bout. Et on gagnera ce bras de fer. On va le gagner, ce bras de fer. Et il faudra que, dans toutes les entreprises, les travailleurs, eh bien, ils relèvent la tête, ils retroussent leurs manches et qu'ils défendent leurs intérêts de travailleurs, leurs intérêts d'ouvriers. Parce qu'il y en a marre dans ce pays de toujours être bon qu'à travailler et puis à payer ses impôts pour que les plus riches deviennent toujours plus riches. Alors l'avenir, il est au mouvement ouvrier, il est à la classe ouvrière et il est au militantisme. Alors bon courage à tous, bon courage à Edith, bon courage à Jean-Christophe et on sera toujours là pour les soutenir.
Secrétaire général de l'UDEC 13.
Bonjour à toutes et tous. Je crois qu'on peut être tous d'accord sur le fait qu'il n'aura pas fallu longtemps, dès l'apparition de l'épidémie, à notre gouvernement, au MEDEF, pour rapidement voir qu'ils auraient largement de quoi tirer profit d'une situation qu'ils ont, qu'on le veuille ou non, largement contribué à créer. Certes, ils n'ont peut-être pas inventé la Covid-19, mais ils ont bien compris ce que ça pouvait leur amener comme opportunité en termes de saccage de ce qui constitue à la fois nos droits individuels et collectifs. Mais bien au-delà de ça, ce qui en réalité fait le modèle social dans lequel on évolue depuis maintenant plus de 75 ans et qui nous avait annoncé vouloir détruire il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, hein. Il me semble que les choses avaient été dites clairement. Alors, c'est pas parce qu'il avait annoncé qu'ils sont légitimes aujourd'hui pour le faire. Sauf que depuis le temps qui tape sur la sécurité sociale, le droit du travail, nos services publics, en fait tout ce qui fait notre modèle social, on va finir par arriver au moment où, naturellement, par vide, ils pourront installer de manière totale et complète, leur système économique. Je dis tout ça, c'est pas que je veux le dire avec gravité, camarades, mais il faut qu'on se rende bien compte qu'ils n'auront pas de limites. Ils n'auront pas de limites. On en est aujourd'hui à un peu plus d'un million d'emplois détruits. Et là, on peut parler que des emplois détruits dont on a connaissance. Ils ont tellement diversifié les modes d'exploitation, voire d'auto-exploitation, qu'il nous est même difficile de quantifier les effets de leurs décisions sur chacun et chacune quant à cette situation en emploi. Je vais essayer de ne pas être nihiliste et de ne pas vous parler que de la liste de malheurs qui nous impose et qui entendent nous imposer. Mes camarades, qu'on le veuille ou non, c'est bien au regard de cette réalité que nous avons la responsabilité, en tant que militants et militantes de la CGT, de construire la riposte générale. On a obligation, et pas parce que c'est... Il n'y a rien de divin dans tout ça, c'est la réalité auxquelles nous sommes confrontés, on a obligation de se sortir de l'isolement dans lequel patronat et gouvernement nous placent les uns et les autres. Une fois que j'ai dit ça, on n'a pas tout réglé. On n'aura pas forcément toutes les solutions ici aujourd'hui. On n'en a pas la prétention. De la même manière, aujourd'hui, les seuls qui doivent être mis en accusation, les seuls au sujet desquels on doit s'entendre et déterminer les façons selon lesquelles on va aller au combat contre eux, c'est le gouvernement, le patronat, la finance internationale. Je le dis parce que parfois, par facilité, on aurait plus tendance à se taper dessus entre nous, sans forcément avoir comme objectif réel de trouver la solution, mais simplement de pouvoir dire c'est pas ma responsabilité, c'est parce que eux ils ont mal fait ça, ceux-là ils ont mal fait ça, et on explique qu'à partir de là, ben, on n'arrive plus à faire les choses ensemble. Camarades, l'objectif de la marche pour l'emploi, l'objectif de la manif du 17, l'objectif des assises d'aujourd'hui, c'est de construire le tous ensemble, parce que nous n'aurons pas d'autres solutions pour en sortir. On ne part pas de rien. Le bagage revendicatif, nous l'avons. La capacité de rassembler, nous l'avons. Mais il faut qu'on s'entende sur ce qu'on veut aller chercher. Effectivement, il y a des choses qui pèsent aujourd'hui négativement sur nos capacités à rassembler et à élever le niveau de lutte. Et soit on les prend pour un fait acquis et on en vient à effectivement se tuer entre nous, soit on part de la responsabilité de chacun et de chacune d'entre nous. On part de l'objectif à atteindre et à ce moment-là, on détermine les moyens pour y parvenir. Mais je pense qu'ici, mais au-delà, camarades, je ne l'ai pas précisé, mais les conditions coercitives dans lesquelles on se trouve ont fait que nombre de camarades, pour diverses raisons, n'ont pas pu se déplacer. Mais en gros, les assises aujourd'hui à Martigues, c'est plus d'une vingtaine de champs fédéraux représentés et 70 départements. Je le dis aussi, non pas pour se compter, mais personne n'est seul nulle part dans le combat. Et je pense qu'aujourd'hui, la salle, avec malheureusement les absents et les absentes, elle illustre ça aussi. Donc je disais, l'objectif c'est vraiment de créer les conditions pour pouvoir aller au combat, pouvoir y aller ensemble, et pour ça, il faut qu'on détermine quels sont nos objectifs. Si on part des possibilités réelles, matérielles, nous n'avons aucune raison de fixer des limites à nos ambitions. L'argent est là, je ne vais pas ici vous abreuver de chiffres, c'est pénible, mais... Parce qu'ils nous ont fait la démonstration avec le plan de relance que quand ils voulaient trouver de l'argent pour non pas relancer la machine mais garantir les dividendes des actionnaires, ils savaient le faire. Je pense qu'ici on est tous conscients que cet argent-là, non seulement c'est nous qui allons devoir le rembourser, mais pour l'essentiel c'est nous qui le produisons. Donc là-dessus je pense que c'est un fait acquis pour nous tous. Et donc maintenant il faut qu'on détermine aujourd'hui, en tout cas pour partie, dans le temps que nous aurons, qu'est-ce qu'on doit aller chercher? Est-ce qu'aujourd'hui il est acceptable qu'au nom de la pandémie, on impose soit le chômage de masse, soit des conditions catastrophiques pour ceux qui restent en emploi. J'ai évoqué les chiffres d'emplois détruits, mais il y a un chiffre qu'on n'arrive pas à avoir aujourd'hui, et chacun comprendra bien que c'est l'intérêt et du gouvernement et du patronat qu'on ne puisse pas l'avoir, c'est le nombre d'entreprises où, au travers des accords de performance collective, on impose des reculs sociaux comme rarement dans l'histoire on nous en a imposé. Donc le choix, il est très clair. C'est un gros stop ou encore, camarade. Et quand je dis ça, c'est pas pour être simpliste ou trop rapide. Mais les choses ne pourront pas se régler, et ceux qui s'y accrochent finiront par partir avec ceux qui les amènent sur ce chemin. Aujourd'hui, le dialogue social, camarade, je m'excuse, mais à part de nous faire perdre du temps, de donner l'illusion qu'il y aurait quelques raisons d'espérer un peu de clémence, un peu de lucidité, soi-disant, ils en manqueraient chez les patrons, à part de nous faire perdre du temps et d'empêcher de nous organiser, ça ne produit aucun autre effet. Alors, je vais être précis. Quand je dis le dialogue social, aujourd'hui, il est contre-productif dans le cadre de la défense des intérêts des travailleurs. Je ne dis pas, on n'a rien à négocier. Parce que, hier soir, je repensais à la phrase qu'on cite en permanence de Krasucki, la régression sociale, hein. Il dit aussi, la lutte des classes est un fait, il ne suffit pas de la nier pour qu'elle disparaisse. Mes camarades, on sait tous aussi qu'il ne suffit pas de crier grève générale, il ne suffit pas de crier révolution pour qu'elle arrive. Et tout ça, on a besoin de le construire. Mais pour le construire, encore une fois, il faut qu'on soit clair sur nos objectifs et sur les moyens qu'on a à mettre en œuvre, et en prenant les choses dans l'ordre. Prendre les choses dans l'ordre, c'est s'appuyer sur la volonté qu'on a les uns et les autres de changer la société, d'être utile à la défense au quotidien des intérêts des travailleurs, et donc partant de là, de créer, enfin, se mettre au travail pour créer les conditions pour y parvenir. Partir de la réalité, c'est obligatoire. Mais partir de la réalité, toujours pour la transformer. Pas pour trouver dans la réalité, et je rajouterai, pour que vous me compreniez bien, la réalité réelle, pas pour trouver en permanence les raisons de ne pas faire. Pas pour trouver en permanence les raisons de considérer que l'objectif est si loin à atteindre, que les conditions sont si dures, que ce qui nous resterait, c'est d'aller négocier la régression sociale. Partir des réalités pour les transformer. Si nous, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de nous dans cette phrase, si nous ne nous attelons pas à cette tâche-là, nous disparaîtrons avec les autres. Aujourd'hui, le discours le plus simpliste et qui passe le plus facilement chez les travailleurs, c'est malheureusement celui de l'extrême droite. Et les travailleurs se trouvent pris entre deux discours, celui qui tend à rendre inéluctable ce qui nous est imposé dans la période, et celui qui consiste à dire « Mais ne vous emmerdez pas, la solution elle est simple, il suffit de jeter cela dehors du pays, il suffit de priver cela de telles aides, et l'affaire sera réglée. » Je ne vous ferai pas l'affront ici de rappeler que l'extrême droite est l'ennemi héréditaire du monde du travail, non seulement par les idées qu'il porte, mais par sa stratégie de division des travailleurs entre eux. Par contre, je veux redire ici que ce qui nous unit tous, travailleurs avec papier et travailleurs sans papier, c'est le fait qu'on soit en situation d'exploitation plutôt, les uns et les autres. Donc c'est bien à partir de nos objectifs, à la fois d'être utile au quotidien et de transformer la société, qu'on doit envisager les choses. Ça doit nous amener, encore une fois, à discuter dans l'organisation, à débattre. Vous avez toutes et tous fait des formations et on nous a rabattu les oreilles en permanence avec la fameuse culture du débat dans la CGT. Camarades, c'est ça qu'il nous faut faire vivre, la culture du débat. Mais pas le débat pour débattre, le débat pour construire l'action. Parce que construire l'action, c'est déjà être en action. Et être en action, camarades, c'est envoyer les signes au monde du travail que non seulement il n'y a aucune fatalité, mais surtout qu'on est en capacité les uns les autres d'influer sur les choix. Si on prend appui sur les luttes qui se mènent dans les boîtes qui sont non pas l'avant-garde, et encore qu'on n'aurait peut-être pas tant de problèmes que ça avec la notion d'avant-garde, mais considérons que nous ne sommes pas l'avant-garde, mais qu'on le veuille ou non, il y a une première ligne au combat. Il y a toujours une première ligne au combat.
L'ouvrier se lève sans se plaindre. Dehors la première benne n'est pas encore partie. Quelques rêves encore qui colorent cette étreinte avant le corps à corps où chaque heure a un prix. Leur caresse se mêle sur la joue d'une femme qu'ils trouvent encore belle. Après les drames, ils voient dans son sommeil les jours heureux, ils savent qu'elle s'en rappelle quand elle ouvre les yeux. Et elle est passée, la nuit trop brève. Dans les cœurs c'est la grève, il n'y a plus de printemps. Ils attendent la relève, ouais le soleil et l'ouvrier. Ils sont les deux derniers camarades à voir au coin des rues les barricades et du temps pour s'aimer. C'est le soleil et l'ouvrier. Et l'ouvrier en ont construit des chemins. Et même dans leur sommeil, ils soulèvent des parpaings. Ils gardent un morceau de cuir au creux des mains. Ils rêvent d'un voyage, un voyage sans fin. Quand le marchand de sable ne vend plus que des graviers, les paupières en balade laissent prendre le ciment. Là où il y a un nom et un cœur de gravé par la branche anonyme qui scelle les serments. Et elle s'est perdue, dans la nuit la fièvre, dans les cœurs c'est la grève. Il n'y a plus de printemps, ils attendent la relève, ouais le soleil et l'ouvrier. Ils sont les deux derniers camarades à voir au coin des rues les barricades et du temps pour s'aimer. C'est le soleil et l'ouvrier. Pour l'un, le MEDEF pour son frère, il lèvera le poing, mais finira sous terre, à diluer dans la sueur, ses venins prolétaires, à diluer dans la sueur, ses venins prolétaires. Et elle s'est perdue, dans la nuit la fièvre, dans les cœurs c'est la grève, il n'y a plus de printemps, que du sable et des prières, dans le sommeil des ouvriers. À l'heure du premier bus, des camarades voient encore au coin des rues des barricades et du temps pour rêver. C'est le soleil et l'ouvrier.
Qu'est-ce qu'on en fait de cette première ligne? On entend qu'elle soit décimée. On se contente de leur apporter une solidarité qu'on se doit à minima entre travailleurs, entre syndiqués de la CGT, entre organisations de la CGT, où on en fait un point d'appui réel pour élever le mouvement social. C'est ces choix-là qu'on doit faire dans la période. Et quand je dis ça, il ne s'agit pas de contester ceux qui ne font pas celui-là de choix. C'est leur problème. Il existe, oui, des organisations syndicales dans ce pays qui prennent le renoncement, l'accompagnement. C'est leur choix. Ça n'a jamais été celui de la CGT. Mais simplement, on ne peut pas évoquer en permanence les grands principes sans jamais les mettre à l'œuvre. Partant de là, camarade. C'est bien non seulement le tous ensemble qu'il faut chercher, mais en travaillant à des contenus revendicatifs qui permettent à chacun, en partant de leurs propres préoccupations, de se retrouver dans un mouvement interprofessionnel qui prend tout en compte. Si on pense qu'on va régler les problèmes les uns avec les autres, après les autres, simplement en se disant on est solidaire, on ne va pas y arriver. On n'y arrivera pas. Mais on n'y arrivera pas, pas par manque de volonté de ceux qui sont au combat. On n'y arrivera pas parce qu'on n'aura pas créé les conditions, tous ensemble, pour que les travailleurs ils se donnent la force d'aller au combat. On a donc cette ambition, ici aujourd'hui, mais ailleurs tous les jours, en se disant que, enfin, il faut simplement analyser comment le patronat, les gouvernements successifs ont organisé les modes de production, d'échange, les modes d'exploitation. Camarades, souvenons-nous du conflit des cheminots en 2018, où les cheminots seuls, avec une stratégie qui n'était pas de la reconductible, de l'illimité, ils sont arrivés à mettre notamment les groupes propriétaires des quelques industries qui restent dans ce pays en grande panique. Si nous avons fait... Encore une fois, hein, il ne s'agit pas de se reprocher les choses, il s'agit de trouver des solutions. Mais en tirant l'expérience aussi de ce qu'on a vécu les uns les autres. Si on avait fait le choix, à ce moment-là, de faire le lien entre la réforme qui était imposée aux cheminots et la casse de l'ensemble de la fonction publique et la casse de l'ensemble des secteurs publics, avec la visée derrière du capital, non pas de s'en prendre aux fainéants de privilégiés, mais bien d'ouvrir des espaces nouveaux de marchandisation, de libéralisation, de tout un tas d'activités qu'au sortir de la guerre, nos prédécesseurs était arrivé, au moins pour une grande partie, à soustraire à l'appétit des marchés financiers. Est-ce que, à la fois, les cheminots auraient été dans les mêmes conditions pour mener le combat? Mais est-ce qu'on n'aurait pas été tous mieux pour se défendre dans nos propres entreprises? Est-ce qu'on n'aurait pas ramené l'idée que, non seulement il ne fallait pas toucher au secteur nationalisé, qu'il ne fallait pas toucher à nos services publics, mais que l'ensemble de nos industries, parce qu'elles produisent des richesses, elles font, elles, la possibilité d'avoir des services publics de haut niveau, de qualité, accessibles à tous, permettant aux uns et aux autres de voir leurs droits respectés. Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux pour le faire, ça? Est-ce que, dans le cadre de la bataille des retraites, si on avait décidé d'un plan d'action interprofessionnalisé, cadencé, David, je te montre à toi à chaque fois, mais c'est le cheminot le plus près. C'est des tics de... Est-ce qu'au moment des retraites, si on avait pris les choses de manière un peu plus organisée, de manière un peu plus interprofessionnalisée, en demandant à chacun d'amener tout ce qu'il peut, en prenant en compte l'organisation, encore une fois, à la fois de la chaîne de production, de la chaîne d'échange, en situant chacun dans le rôle qu'il a joué dans le combat. Est-ce que... on a gagné par abandon, mais on a gagné le report de la réforme. Hein. Le gouvernement, il fait que dire qu'il va y revenir. Est-ce que s'il y revient, le combat va le mener ou pas? Et est-ce qu'on va le mener de manière organisée? Est-ce qu'on va afficher enfin que ce que certains prétendent comme étant nos partenaires sociaux, la seule chose qu'ils comprendront, c'est le blocage de l'économie? Ça, on a besoin d'en discuter, dans la stratégie de lutte. Est-ce qu'on fait grève pour obtenir des négociations ou on fait grève pour obtenir sur nos revendications? On n'a pas fait grève pour obtenir des concertations sur la retraite, enfin, sur la réforme des retraites. On a fait grève pour qu'ils abandonnent le projet de réforme des retraites. pour qu'on crée les conditions que notre système soit mieux financé, mieux. Mais c'est valable pour tous les sujets. C'est valable pour tous les sujets. Ils nous bassinent en permanence. Et c'est un sujet réel, hein, sur la transition industrielle en lien avec la transition écologique. Qui s'en occupe? Macron pour le gouvernement et le représentant de BlackRock en Europe? Mais vous voulez qu'il arrive quoi? Ils vont continuer à fermer les usines qu'ils considèrent inutiles pour eux. Ils vont continuer à nous faire reproduire des choses sans logique particulière, mais ils vont surtout continuer à nous expliquer qu'en aucun cas, les productions qui nous resteraient, leur objet premier, c'est répondre aux besoins du pays, aux besoins des populations, pour faire en sorte qu'on soit au bon niveau de satisfaction. Voilà ce qui va se passer. Voilà, ben, on a besoin d'être sur tous les sujets. Ça s'appelle la double besogne. Ça s'appelle la double besogne. On peut tourner, virer. On a besoin d'être sur tous les sujets. Parce que si on n'y est pas sur la double besogne, ça revient à renvoyer à l'idée que nous, on est là pour gérer le quotidien et d'autres seraient là pour gérer les grands enjeux politiques. Et dans les grands enjeux politiques, il y a parmi les forces de notre camp un certain nombre de choses sur lesquelles, à mon avis, il nous faut intervenir pour travailler à la fois l'unité dans les luttes jusqu'aux urnes, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, en se disant quand même qu'on ne peut pas renvoyer tout aux élections et qu'on a besoin d'avoir un mouvement social du plus haut niveau possible pour que, y compris, ça se traduise à un moment donné par un changement de pouvoir politique. Mais si on veut un changement de pouvoir politique, c'est surtout parce qu'on veut un changement de société. Et cette société dans laquelle on veut vivre, nous avons la responsabilité de travailler à sa concrétisation, à son élaboration. Sans ça, on n'est pas la CGT. On est déséquilibré, on marche sur une seule jambe. Et encore une fois, dans le respect de l'indépendance, de ci, de là. Mais, je me permets la formule, l'indépendance, c'est pas la neutralité. La neutralité, en permanence, ça revient à se retrouver, à avoir le choix au second tour entre Le Pen et le représentant du camp réactionnaire dit démocrate. Donc là, je me rends compte que je suis un peu long, mais je pense qu'on se sera compris sur les objectifs qu'on se propose de traiter. Dans le même temps, il faut aussi qu'on s'interroge, camarades, sur nos pratiques syndicales. On a été amené depuis des années, à tous les niveaux, à se retrouver, à faire plus de réunions pour essayer de comprendre, d'atténuer, tant que faire se peut de les faire reculer, avec ceux qui nous imposent tous ces reculs, qu'à passer du temps avec nos syndiqués, syndiqués et en inclusif, pour construire la riposte. On arrive à un moment où, je le redis, il n'y a plus grand-chose en termes de positif qui se jouera au travers des IRP. Hein. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'on y siège. Camarades, quand on dit qu'on est contre le syndicalisme rassemblé, ça ne veut pas dire qu'on est contre l'unité syndicale. Hein. Tout dépend comment on prend les choses. Hein. Donc quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut plus siéger dans les IRP. Ce que je dis, c'est que dans la meilleure des façons, c'est d'y siéger avec du rapport de force construit à partir de nos contenus, à partir de nos revendications portées par nos militants et nos militantes. Et je ne distingue pas militants et syndiqués. Ça aussi, c'est un travers qu'on a dans l'organisation depuis trop longtemps, de distinguer l'élu, le militant et le syndiqué. Est-ce qu'il a trois cartes? Est-ce qu'il y a trois cartes différentes? Je ne crois pas. Il n'y en a qu'une, c'est la carte de la CGT. Donc ça aussi, hein, dans nos réflexions, et non pas encore une fois pour pointer en culpabilité un tel ou une telle, c'est pas ça la question. La question c'est de savoir jusqu'où il faut qu'on aille pour inverser la tendance. Pour inverser la tendance. Je excusez-moi. Donc je vais conclure, parce qu'il nous faut le temps d'en débattre, camarades, mais voilà, qu'on soit clair entre nous, il nous faut sortir d'ici, non pas avec toutes les réponses. Hein, faut qu'on soit lucide. Mais on doit partir d'ici avec la conviction que chacun et chacune d'entre nous, ici, dans tout le pays, dans toutes nos organisations, nous avons un rôle à jouer pour empêcher le massacre, non pas à venir, mais en cours. Il faut qu'on ait bien en tête que personne ne fera le travail à notre place. S'en remettre à d'autres, c'est la délégation de pouvoir, et qu'on le veuille ou non, ça ne nous a jamais servi. Avoir en tête que notre responsabilité, elle est non pas de guider le peuple, mais elle est de lui permettre de s'organiser, permettre aux travailleurs de sortir de l'isolement dans lequel ils nous placent, ça c'est notre responsabilité. Rabâcher, j'espère que Marcel est là, hein, encore une fois, notre démarche, elle exige qu'on use des tonnes et des tonnes de salive, non pas pour endoctriner, pour rappeler que dans le système qui nous impose, dans les mesures qui nous imposent, il n'y a rien de juste. Il n'y a rien de juste. Et on a besoin d'aller sur une démarche, quand je dis interprofessionnalisée, c'est y compris pour qu'on fasse jouer à notre organisation, la Confédération Générale du Travail. Nous avons fait le choix d'adhérer à une confédération. C'est pour qu'on lui donne la possibilité d'être l'outil d'unification des travailleurs, l'outil de la transformation de la société. On ne peut pas se contenter d'expliquer que partout on doit travailler des projets alternatifs au mauvais coup du patronat. On le fait, heureusement qu'on le fait. Sinon, je reprends les deux mêmes exemples, la question de la SAD, enfin Prestalis, ça aurait été réglé depuis longtemps. Il y aura victoire bientôt à Prestalis, mais parce que les travailleurs avec leurs syndicats, ils ont décidé de porter un projet alternatif. À la centrale, ce sera la même chose. Je le souhaite, et en tout cas, on s'engage avec tous les autres dans le pays que ce soit la même chose, mais on ne peut pas en permanence renvoyer la responsabilité sur ceux qui subissent les mauvais coups. On a besoin d'y aller en confédération, d'y aller de manière interprofessionnelle. C'est ça notre objectif, mais en plus c'est la seule façon qu'on aura de pouvoir aller à la gagnant, et d'y aller tous, et sur les sujets précis, en tout cas particuliers, et sur les grands enjeux. Voilà, je m'excuse d'avoir été un peu long, mais pourtant croyez-moi, je me suis restreint. Donc camarades, ayons tout ça en tête, on est là pour construire, on n'est pas là pour régler des comptes avec qui que ce soit, et dehors, il y a des travailleurs qui comptent sur nous.
Nous attache à la ferraille, ne nous laisse que l'effort. Ils nous font jouer les cobayes, puis nous jettent à moitié morts. Ils nous mettent sur la paille, quand s'entasse leur trésor. Ils nous brident et nous baladent, nous font cuire dans leur bouillon. Nous mélangent à leur salade, nous promènent comme des pions. Il nous faut tomber les grilles, vaincre la loi du plus fort, se repartager les billes et repeindre le décor, et repeindre le décor. Passe-moi mon drapeau rouge, que je l'accroche au volet. Regarde-le comme il bouge dans la rue ensoleillée. Passe-moi mon drapeau rouge, que je l'accroche au volet. Passe-moi mon drapeau rouge, et le noir tant que tu y es. 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 Yeah! Ragadigade, la langue me démange. Ce matin je me sens tout remonter. Ragadigade, je voudrais que tout change et connaître enfin la félicité.
La gadigadé, je cours à la fenêtre. Et j'ai envie de gueuler un bon coup. La gadigadé, envie d'envoyer paître tous ces méchants, ces puissants, ces filous. La gadigadé, qu'on a de toutes sortes. Aujourd'hui, il ne faut pas me brancher. La gadigadé, le diable vous emporte. Il est grand temps pour vous de raccrocher. La gadigadé, franchement, ça soulage. Et ça t'empêche de devenir fou. La gadigadé, tant pis si c'est pas sage. Il ne fallait pas nous pousser à bout. Il ne fallait pas nous pousser à bout. Nous pousser à bout, nous pousser à bout.
Passe-moi mon drapeau rouge, que je l'accroche au boulet. Regarde-le comme il bouge dans la rue ensoleillée. Passe-moi mon drapeau rouge, que je l'accroche au boulet. Passe-moi mon drapeau rouge, et le noir d'un petit billet. Passe-moi mon drapeau rouge, que je l'accroche au boulet. Regarde-le comme il bouge dans la rue ensoleillée. Passe-moi mon drapeau rouge, que je l'accroche au boulet. Passe-moi mon drapeau rouge, et le noir d'un petit billet. Et le noir d'un petit billet. Et le noir d'un petit billet. Et le noir d'un petit billet.
Clairement, il va falloir réformer.
On en est à des blancs qui s'agenouillent devant les noirs.
C'est pas assez violent, tout simplement. Alors, c'est la société française.
Le droit de grève prévaut, c'est bien normal. La liberté de travailler, qu'en est-il?
Est-ce que vous pensez parfois à cette France qui a envie de travailler?
Je trouve qu'on a le droit de critiquer la médiocrité des Gilets jaunes sans se voir taxé comme ça de mépris classe.
Le monde est en train de changer. Alors, serez-vous capable de vous adapter?
Qui souffre le plus de la grève et des blocages? Le CAC 40 s'en moque. La bourse, elle monte.
Quand on regarde la réforme des retraites, c'est une réforme de gauche.
Oui, parce que les RTT, les 35 heures à l'hôpital, ont désorganisé l'hôpital public.
Il y a eu de la torture, il y a eu tout ce que vous voulez, je ne le nie pas. On n'a rien fait de mal.
On considère que le droit au travail, c'est le droit de choisir son travail.
Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
L'heure de le mettre, mercredi à 18h30 sur Radio Campus 106,6.
Il veut pouvoir manger tous les jours du pain et pas de mots ronflants, du pain et pas de discours. Marchons au pas, camarades, vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. L'homme veut avoir des bottes, oui. Il veut avoir bien chaud tous les jours, des bottes et pas de boniment, des bottes et pas de discours. Marchons au pas, camarades, vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. L'homme veut avoir des frères, oui. Il ne veut pas de matraque ni de prison. Il veut des hommes, pas des parias, des frères et pas de patron. Marchons au pas, camarades, vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. Tu es un ouvrier, oui. Viens avec nous, amis, n'aie pas peur.